C'est authentique.
Bon, elle s'est mariée avec un autre.
Bon, c'est arrivé. Et ça a paru aussi. Bon. Alors, j'ai connu un curé qui habite ici à Jérusalem, d'ailleurs, maintenant. Il gagne sa vie en étant mauvais, d'ailleurs. Qui a découvert la Shoah après la guerre, qui a découvert les calomnies contre le peuple juif, qui est tombé amoureux du judaïsme et du peuple juif. Et puis finalement, au bout de quelques années, il pensait devenir juif, il s'est rendu compte que c'était pas possible. Et il est resté curé, mais très, très ami des juifs. Et alors, c'était à la 7e promotion de Marianne, la promotion où il y avait, comment il s'appelle, Shraga. Tu te rappelles de Shraga? Oui. Shraga, c'est un de mes élèves qui est d'origine alsacienne. Il était venu durant cette promotion expliquer son histoire. Et alors il leur expliquait, voilà, j'ai pas pu devenir juif parce que j'aime la choucroute. Et alors, vous connaissez l'histoire? Et alors Shraga, qui est un juif alsacien cachère, il dit alors quoi, il n'y a pas de choucroute cachère? Alors il dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'une choucroute? Voilà, c'est un exemple significatif. Il y a un genre de vie juif de la Torah pour lequel certains goyim ne sont pas faits, ce n'est pas pour eux. J'ai eu un cas d'une conversion fausse comme ça de ce genre, après des années où ça avait l'air de bien marcher, c'est une personne, je ne dirais même pas c'est un garçon ou une fille, qui a dû être soignée pour des troubles psychiques profonds, parce que c'était une erreur sa conversion, ça ne correspondait pas à son identité. Alors on l'a déconverti. Mais il lui reste des traces. Quoi. Elle est aussi malheureuse qu'une chrétienne. Bon, c'est une femme. Mais vous comprenez, il faut être très prudent. Peut-être c'est pas pour toi. Quand il y a des questions de maladie, ça, le Dayan, le Bedin, sait comment décider. Ça, vous demandez au Bedin. On ne discute pas ça théoriquement. Par exemple, c'est que le suicide est interdit. Si quelqu'un s'est suicidé, on n'enterre pas cachère. Parce qu'il y a aussi des enterrements cachères. Mais si le Bedin établi qu'avant de se suicider, il était malade, alors on lui fait quand même son enterrement caché. Parce que ça veut dire qu'il n'était pas responsable. On a un autre exemple. Okay. Oui, il faut être très prudent, parce qu'encore une fois, ça ne passe pas par la raison, c'est l'âme profonde qui est concernée. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Encore une fois, je m'étonne que beaucoup de gens ne voient pas cette évidence. Si ça passait par la raison, ça veut dire que tous les goïms sont irrationnels. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont une raison normale, mais une âme différente. Voilà, c'est ça. C'est clair?
Les ménages vont tort pour autant, alors.
Comment?
Les ménages vont tort pour autant, ils ont raison pour eux avec leur mentalité.
Exactement. C'est quand ils prétendent que c'est eux, Israël, qu'ils ont
d'accord, tort. D'accord, voilà. D'accord. Quand ils n'ont pas tort, finalement.
À condition qu'ils rentrent dans le cadre des Bnei Noirs, c'est-à-dire s'ils sont idolâtres, ils sont idolâtres. Et alors on essaye de les convaincre de ne pas être idolâtres. S'ils sont assassins, ils sont assassins, etc.
Mais le athée, par exemple, qui ne croit pas, le goy athée, qui n'est pas idolâtre.
Eh bien,
je pense,
c'est un sujet pour lui-même, je pense qu'il vaut mieux pour un goy d'être athée qu'idolâtre. Pour un goy, un juif, c'est différent. Mmh. Ça, je pense, il n'y a pas de décision là-dessus. J'ai une fois posé la question à Rakouk, mais on n'a jamais eu le temps de l'étudier vraiment. Et d'après ce que je pense, mais vraiment, c'est sous toute réserve, peut-être qu'à la limite, on pourrait dire que pour les goïms, il vaudrait peut-être mieux qu'ils soient athées qui veulent, à condition qu'ils soient moraux. Comme malheureusement, les athées sont rarement moraux, alors il y a encore un autre problème. J'ai dit malheureusement et rarement. On n'a qu'à voir les civilisations nazies, marxistes, qui sont des civilisations athées et qui sont immorales comme c'est pas possible. Bien. Revenons à notre problème. S'il n'y a plus d'autres questions, quelle avait-il? Bon. Alors, on va essayer de décrire, si on n'apprend que ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal, le profil de prise de conscience de soi qu'a Caïn. Et ça nous est décrit parce que Hava dit, Vatomer, et elle dit, Kaniti, j'ai acquis. Il faut expliquer le mot de Caïn. Bien que l'étymologie ne soit pas apparente immédiatement, nous avons l'explication. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant, il est Caïn? Ça veut dire qu'il ne pourra pas percevoir naturellement qu'il doit mériter d'être, il doit acquérir le mérite d'être. Il se connaît comme acquis déjà. moi, je suis. Et donc, tout être qui n'est pas lui, il ne peut le percevoir qu'en plus de lui, en trop. Voilà. C'est un profil d'identité qu'il faut que vous découvriez, même si ce n'est pas l'évidence de votre propre prise de conscience, que pour nous juifs, après toute cette éducation, et pas seulement nous juifs, après toute l'éducation biblique de milliers d'années, il est évident que l'autre que moi a place chez moi. Mais Caïn, c'est celui qui se concerne, qui se connaît comme acquis. C'est, j'ai toujours été frappé par cela, par l'expression de Descartes, qu'il employait pour autre chose d'ailleurs, et qui m'a frappé, je pense, donc je suis. Voilà, Caïn, c'est je suis. Et alors, du point de vue philosophique, on connaît cette attitude, elle s'appelle le solipsisme. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a que moi qui existe. Tout le reste, c'est en plus, c'est des apparences et des illusions. Si ça me gêne, et si ça ne me gêne pas, ça va. Si ça me gêne, je supprime. Oui, une espèce de prise de conscience de soi d'un type humain réfractaire à la moralité par nature. Il ne perçoit pas qu'il y a un problème moral à résoudre pour acquérir le mérite d'être. Et qu'est-ce que c'est que le problème moral? C'est d'Afka faire une place à son frère. Vous suivez cela? Okay. Alors, ne vous étonnez pas, il y a des gens qui sont comme ça. Je raconte souvent que quand j'habitais la France, j'étais impressionné par le titre du journal de la LICRA. Aujourd'hui, ça s'appelle la LICRA, la Ligue contre l'antisémitisme. C'est le droit de vivre. Vous voyez, ce type de civilisation, il faut réclamer le droit de vivre chez l'autre. Okay. Ça, c'est le journal que Abel aurait pu éditer. Okay. Parce qu'il est chez Caïn. Mais la relation n'est pas parallèle. Caïn se considère comme le possesseur du monde. Mais voilà, il y a quelqu'un de plus dans ce monde-là. Et nous allons voir tout de suite qu'Abel va avoir une prise de conscience inversée. Regardez bien. La Tosef la Lénette, elle ajouta d'enfanter. Alors faites bien. Attention au terme en hébreu. Il n'y a pas écrit elle enfanta ensuite, ou elle enfanta encore, ou elle enfanta une deuxième fois. Il y a écrit elle ajouta d'enfanter. C'est cette surprise qu'il faut découvrir. Bon, l'enfant est arrivé. Première surprise. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un enfant de Adam. Hein? Encore une fois, il faut me brancher sur l'analyse tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas dans le texte. Un petit d'homme, peut-être, mais un fils d'homme, c'est mâchoire. C'est clair, vous voyez la différence? Et bien voilà, il est là, c'est Caïn. Et voilà qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'amène. Le voici. Il vient en plus. C'est clair? C'est une tosséfète. Elle ajoute à l'enfanté, c'est une deuxième surprise. Et Tachiv, son frère, vous voyez comment il est désigné dans le texte? Il n'est pas un fils, il est un frère du fils. Alors bien sûr, au niveau de l'état civil, les mots ont un autre sens. Ce que je veux dire, c'est que Abel naît comme frère. Il est capable d'être frère. Caïn n'est pas capable d'être frère. Vous voyez, c'est clair? Lorsque Abel prend conscience de lui, il prend conscience de lui comme étant chez l'autre et non pas chez lui-même. Il est donné à la moralité d'emblée, parce qu'il est né le deuxième. Ça veut dire, c'est l'autre qui est important. Moi, je suis en plus. Mais ce n'est pas une morale définitive. Parce que si on reste là, on disparaît. C'est ce qui lui arrive. Okay? Il faut arriver à trouver la synthèse entre les deux. Mais il est clair que Abel est d'emblée capable d'être moral, alors que Caïn est d'emblée réfractaire à la morale, par leur manière d'être né, d'après l'intitulé du récit, tout simplement. Et, vous verrez, la fin du verset, après je prendrai un des choses, si c'est possible. Et la fin du verset tout de suite, voyez Abel Horizon, et Abel devint berger de troupeaux, et Caïn haya oved adama, alors que Caïn était travaillant la terre. Quelle image il y a là? C'est que l'un devient pas sédentaire, il n'y a pas que ça, celui qui possède la terre et la travaille, l'autre devient berger des troupeaux. Alors regardez les niveaux. Vous avez frère, berger, vous voyez comment ça se suit. Et vous remarquerez que dans le récit de la Bible, ce que Dieu cherche pour contracter alliance, c'est qui est capable d'être berger. Et ça veut dire qui est capable d'être frère. Vous remarquerez cela. les scènes qui nous sont racontées, les bergers d'Abraham, les bergers d'Isaac, l'épreuve de Moïse, c'est l'épreuve du berger, l'épreuve de David, c'est l'épreuve du berger. Qui est capable d'être frère? Qui est capable d'être berger? Celui-là est capable d'être Cohen. Ça, c'est la même ligne. Frère, berger, en français on dit pasteur, prêtre. Est-ce que c'est clair? Non. Vous voyez donc la différence de ces deux perspectives d'identité. C'est-à-dire jusque-là. Jusque-là, nous avons acquis une connaissance très importante. Lorsque ces deux sujets sont en présence, eh bien, c'est pas réciproque, c'est pas univoque, c'est deux sujets de nature différente. L'un est Caïn, il est le sujet par excellence. Et tout ce qu'il y a d'autre que lui ne peut être qu'en plus. Donc il est candidat à être assassin. Il n'est pas encore assassin, mais il est candidat à l'être. C'est clair. C'est-à-dire, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, l'éventualité, l'issue, c'est de supprimer autrui. L'autre, au contraire, est d'emblée donné à cette vocation du berger, ça veut dire s'occuper de l'autre. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que je voulais essayer d'expliquer, que le problème social commence par ce que j'appellerais une relation d'intersubjectivité et que les deux sujets ne sont pas égaux. Alors, dans la réalité de tous les jours que nous vivons, eh bien, on est très rarement que Caïn pur ou Abel pur. On est toujours un peu Caïn, un peu Abel, plus ou moins. C'est clair? Et là, nous avons les limites des deux sujets qui, dans la relation, font le problème social. Donc, alors, la suite, vous allez la lire par vous-même. Il est arrivé que ça n'a pas marché, tout simplement, et qu'en fin de compte, Caïn a supprimé Abel. Et la civilisation qui va être fondée est une civilisation qui a une identité très précise. C'est une civilisation qui est basée sur l'équation de la suppression de la dignité d'autrui. Une civilisation sans frère, sans fraternité. Autrui n'est pas reconnu comme tel. C'est la civilisation de Caïn. Alors pour éclairer cela, on va élargir un peu, je vais vous donner un schéma. Et nous allons voir de quoi s'agit-il. De façon un peu abstraite, mais ça vous permettra de généraliser et de ranger les différentes tentatives de civilisation d'après ce problème. Parce qu'en fin de compte, c'est le problème permanent de la civilisation humaine. Comment arriver à faire, à obtenir, on appelle ça aujourd'hui la coexistence pacifique de deux frères. Et vous savez qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Même si, théoriquement, on la connaît, on ne sait pas comment la mettre en pratique. Théoriquement, on la connaît. La Torah nous l'a déjà dit, ça a diffusé dans le monde entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne sait pas comment le faire. Je veux dire, aucune société n'est encore arrivée, laissons le cas d'Israël de côté, pour le moment, aucune société n'est arrivée à mettre en pratique une solution cohérente. Quelle est l'équation qui se produit là, qui apparaît là? C'est que la relation sociale met en relation deux sujets. Mais le fait même de la relation fait que l'un des deux est transformé en objet. C'est clair? Je vous donne un exemple, celui que je donne habituellement. Je vous parle. Eh bien, je suis sujet de l'acte de parler et vous êtes objet, vous écoutez. Et par conséquent, je dois parler d'une manière telle que votre dignité de sujet soit préservée, qu'elle ne soit pas transformée en objet. C'est clair? Inversement, vous m'écoutez et là vous êtes sujet, je suis objet. Donc vous devez m'écouter de manière telle que ma dignité me... C'est cette équation-là qui pourrait résoudre tout. C'est-à-dire, tout geste de vie met en relation un sujet avec un autre sujet, mais en le transformant en objet. Donc, comment se conduire de telle sorte que l'autre ne soit pas transformé en objet, mais sa dignité de sujet soit intacte. C'est clair. Bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé ici? La première équation. Caïn a décidé, je suis sujet, tu seras objet. En parlant à Abel, enfin sans lui parler. Qu'est-ce que c'est qu'avoir transformé Abel en objet? Eh bien, c'est l'avoir objectivisé de façon définitive. Il en a fait un objet, un cadavre. Okay? Vous avez compris ça? Alors, effectivement, vous avez tout un courant des sociétés où c'est cette équation qu'on a prise comme solution. C'est les sociétés totalitaires. Je serai le sujet, tu seras l'objet. Tamarou, ils vont mettre sur votre main. Vous avez compris le raisonnement? Là. Ça veut dire, s'il est inévitable qui est un sujet et un objet. Là, je préfère que tu sois l'objet, je serai le sujet. T'as compris? C'est la dialectique du maître et de l'esclave. S'il faut inévitablement qu'il y ait un maître et un esclave, ben, je préfère que le maître, tu seras l'esclave. C'est la ligne des sociétés totalitaires. Vous apprendrez, si vous analysez, vous élargissez vos études, que le type de religion compatible, enfin homogène, à cette façon de comprendre le problème de la société, c'est l'islam. Et pourquoi on s'aperçoit de cette collusion, apparemment contre nature, entre l'islam et les sociétés totalitaires au point de vue politique. Si un jour vous étudiez l'islam, vous verrez que ça va avec. C'est-à-dire l'équation est, moi sujet, toi objet. Par exemple, la condition de la femme dans l'islam, ça rentre là-dedans de façon à pieds joints. Okay. La condition de l'étranger, la condition de l'esclave. Bien. Hein, j'espère que l'objet qu'il y a dans ma gorge va se transformer en sujet. Sinon, c'est un sujet très facile. Bien, alors revenons au problème. Il y a eu une réaction contre cela. Dans l'histoire de l'humanité, eh bien, après ce stade qu'on appellera matérialiste plus, totalitaire, il y a une réaction de type chrétien, qui consiste à dire, à inverser le problème. Eh bien, dans la relation sociale, il y a inévitablement un sujet, un objet, eh bien, la piété, c'est d'être l'objet et que l'autre soit le sujet. S'il faut une victime, que ce soit moi. Vous retrouvez un peu le profil du discours chrétien. Je dis bien le discours. Les sociétés chrétiennes n'ont jamais vécu là-dessus. Mais c'est leur discours officiel. Est-ce que c'est clair? On n'est qu'à lire le Sermon sur la montagne, si vous avez du temps à perdre, et vous verrez cela. Okay, et ça rentre dans ce schéma-là. Okay. En fait, il y a des individus, parfois des moines qui se groupent en société, des couvents, où c'est pratiqué en vase clos, mais en fait, la société chrétienne ne vit pas comme cela. Mais c'est son discours officiel. Ça veut dire, ça vous fait comprendre l'invraisemblance du discours chrétien. Okay. L'appel à la charité et au sacrifice de la charité, alors qu'on est exploiteur du peuple, par exemple. Okay. C'est clair ce que je dis là? Vous voyez, je serai l'objet, et tu seras le Seigneur. Enfin, tu seras le sujet. Okay. La doctrine du sacrifice. J'ai une fois entendu dans un séminaire une juive qui est intervenue en répondant à une chrétienne qui parlait de donner sa vie pour l'autre. Elle lui a répondu, en réalité, voulait dire donner sa mort pour l'autre. C'était une très belle réponse. J'ai compris ce qui s'est passé là. Que l'idéal, c'est de donner sa vie pour l'autre. En réalité, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes ta mort, pas ta vie. Vous avez compris le... Et nous retrouvons cela ensuite dans les différents âges de l'homme. Dans la première enfance, on est plutôt comme la première moi et toi en plus. Ensuite, il y a une réaction idéaliste. Okay. On est de tendance de l'art pour l'art en idéal, l'idéal pour l'idéal. Tu passes avant moi systématiquement. Je suis la victime. Ça, c'est la crise de l'adolescence. Okay. Le romantisme de 17 ans. J'espère que vous avez traversé ça sans dégâts. Oui, passez un petit peu, mais pas trop. Et alors ensuite, on arrive à une troisième équation. Celle-là, on la trouve surtout dans les philosophies mystiques du type Extrême-Orient. Vous devez déjà la deviner. J'ai surtout étudié à ce propos le bouddhisme. Mais je sais que dans les autres, l'attitude est aussi assez analogue. C'est que c'est ceci. Si c'est tout geste d'histoire qui entraîne qu'il y a un sujet à un objet, arrêtons l'histoire. Si c'est inévitable qu'il y ait un objet, pour pas qu'il y ait de souffrance, il faut arrêter l'agir. Alors l'équation arrive objet-objet. Les deux seront objets, on arrête l'histoire. Et on rentre dans le nirvana de l'équanimité de la conscience tranquille. Pour éviter la douleur, il faut arrêter l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors vous voyez un peu un exemple de ce qu'on a vu tout à l'heure. Un occidental arrive difficilement à comprendre que ça peut être l'idéal pour l'oriental. C'est l'extrême-oriental d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'occidentaux qui sont fascinés par ça, d'ailleurs. J'ai toujours en mémoire un proverbe chinois qui dit « Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis et mort que couché. » Voilà l'idéal. On arrête. Parce qu'on n'a pas de solution. parce qu'on n'a pas de solution au problème de départ. Il y a deux sujets en présence, mais inévitablement la vie en transforme un en objet. C'est ce récit-là, Caïn tue Abel. Okay? Alors encore une fois, solution du matérialisme, eh bien c'est le totalitarisme. Solution chrétienne, c'est une pseudo-solution, c'est le sacrifice de la victime, mais le problème moral n'est pas résolu parce qu'il y a encore une victime. Vous avez compris ce que je dis. Et puis, troisièmement, cette perspective, je vous ai cité l'Extrême-Orient, mais on peut la trouver partout sous des formes différentes. Si vous lisez la littérature russe, vous savez qu'il y a eu un âge de la littérature russe où c'était l'évidence, bien, être l'héroïsme de la victime, pour ne pas être l'assassin. Et puis, aujourd'hui, semble-t-il, la situation occidentale est fascinée par la troisième formule de la béatitude. Ce genre de béatitude, vous avez vu sûrement ces groupes de gens habillés en jaune safran, plus ou moins rasés. Et alors, c'est des gens béats. Voilà. Et alors, on arrive à la quatrième formule. Vous devinez que c'est la dernière de laquelle nous allons parler maintenant. Je vais vous la décrire comme ça. C'est le fait que chacun reconnaît l'autre comme supérieur, alors il n'y a pas d'inférieur, à une condition que ce soit réciproque. C'est la solution de la Torah. Chacun dit à l'autre, Adoni. Mais quand c'est réciproque, il n'y a pas de haïve. Vous avez compris? D'ailleurs, en français, quand on dit monsieur ou madame, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire ça. Monsieur, dans l'ancien français, c'est monseigneur. Okay? Madame. Oui. Si c'est réciproque, on dépasse la politesse. Hein? Si c'est réciproque, eh bien, c'est réussi, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a pas d'objet, parce que les deux se reconnaissent comme sujet. Et c'est la charte que la Torah va proposer pour résoudre ce problème de Caïn et d'Abel. Alors comprenez bien que théoriquement, c'est très facile à comprendre. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, réciproquement. Okay? Mais pratiquement, il faut en avoir. Comment ça se fait, ça? Voilà, c'est clair. Là, c'est essentiellement ce qu'il fallait découvrir pour le début. Alors, je vous inviterai à lire attentivement tous ces chapitres 4 et on va progresser la prochaine fois assez rapidement dans la suite de voir le sursis qui est donné à Caïn. C'est une surprise. Caïn, apparemment, est assassin. Et pourtant, Dieu lui donne un sursis, il va fonder une civilisation. Et les différentes tentatives de rattrapage et les différents échecs qui finalement mènent au déluge. C'est-à-dire, cette humanité n'arrive pas à subsister et à saturation de violence, alors le déluge va arriver pour sanctionner ces 10 générations de la première tentative humaine qui ont échoué parce qu'au point de départ, on n'a pas pu trouver la solution du problème posé au fait de la relation sociale. Bien. Je ne sais pas si il me reste du temps. Bon, il nous reste une minute, si vous avez une question.
Quelle était la possibilité de cette société d'apprendre Hevel et mort? Personne ne peut apprendre à Caïn.
Il fallait... on le verra, mais on va un peu en arrière. Je n'ai pas touché à ce point-là, mais... le problème moral pour Abel, c'est de faire une place à Caïn. Et le problème moral pour Caïn, c'est de faire une place à Abel, etc. Le problème moral pour Abel, c'était d'éduquer Caïn. Et on voit que Abel n'a pas éduqué Caïn, alors il en est mort. Hein. Et nous reverrons ensuite ces équations reprises dans l'histoire d'Israël. Entre Jacob et Ésaü, on voit une situation analogue, deux frères jumeaux. Ici, le Midrash indique qu'on peut comprendre que Caïn et Abel étaient jumeaux. C'est pas évidemment le pshat, mais on peut le comprendre. Et on voit Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux. Alors on voit que Ésaü a l'option de Caïn, et Jacob, apparemment, a l'option de Hevel, mais il y a un progrès, il ne se laisse pas tuer. Parce que tant qu'il n'a pas arrivé à éduquer Ésaü, il est en danger. C'est ce que Rivka lui fait comprendre. Vous avez vu tous ces textes, hein? Il lui dit, sors-toi, parce que si tu restes, je vais être veuve de vous deux le même jour. Vous rappelez, la Maïshkal Gamshnechem Beyomer. C'est un enseignement très important. Si Jacob est censé éduquer Ésaü, alors, ou bien il réussit, c'est très bien, c'est le temps messianique qui commence. Ou bien il échoue, il a deux solutions. Il reste chez Ésaü et il devient Abel, assassiné, ou il s'enfuit. Alors je reprends ce qui s'est passé dans l'Europe, dans les générations précédentes. Les Juifs, avec une naïveté profonde, ont dit, nous avons une mission chez l'égoïsme. leur apprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Éduquer Ésaü. Eh bien, Ésaü était inéducable. Et ils sont restés chez Ésaü. Alors, résultat, massacre. Vous voyez, alors que la Torah nous a enseigné, quand Ésaü est Ésaü, alors qu'il se dit ton frère, sauve-toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, ça continue, malheureusement. Parce que l'Europe a entendu que la solution, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça fait 2000 ans que l'Europe, j'allais dire belle là-dessus, le verbe belé, ça vient de Abel, et répète ça. Et alors, les Juifs sont dans une position très délicate, très vulnérable. Ils s'imaginent qu'ils ont une mission chez Ésaü là-bas, de lui apprendre tu aimeras ton prochain. Il y a longtemps, il a entendu, il ne sait pas le faire. Dans leur Bible, il y a écrit tu aimeras ton prochain, sauf lui, comme toi-même. Après, l'histoire de l'Europe. Alors c'est pourquoi nous sommes assez inquiets de cette naïveté. On a une mission à apprendre au goyim à aimer son prochain comme cela. C'est évident que ça n'a plus d'objet. Ou bien ils le savent, ou bien ils ne le savent pas. Or ils le savent, mais ils ne savent pas le pratiquer. C'est une société qui est arrivée à l'impasse de la saturation de violence, que nous décrit la Bible d'ailleurs. Alors si on retrouve la scène de Rivka et Jacob, qu'est-ce que Rivka dit à Jacob? Cette fois-ci, ne fais pas comme Abel, sauve-toi. Vous avez compris le... Ken.
Il y avait une autre solution pour traverser, tu
es oui. Demandez ça au gouvernement israélien. Comment il va résoudre le problème des Arabes en Israël? Comment on est juif, on ne fait pas ça. Seulement, il y a un midrash que je vais vous citer. Vous allez le prendre sur le verset. Oui, on est coincé, parce qu'un juif ne fait pas ça. Mais alors, regarde, si tu comprends le caractère carcaël de cette histoire, qu'est-ce qu'on a à faire en Europe pour avoir à tuer les Européens? Rentre chez toi, vraiment. Tu comprends? Je suis en train de vous faire du sionisme. Rassurez-vous, ce n'est pas payé par l'agent juif. Regardez, prenez le verset 8. Chapitre 4. Réomer Caïn est levé, l'arrive. Et Caïn dit à Abel, son frère, Vaïli, et il arriva. La Torah ne dit pas ce qu'il a dit. Mais le Midrash reconstitue. Biotam Basadé, alors qu'ils étaient dans le champ, Vaïakom Caïn est levé, Caïn se leva contre Abel, Achiv, son frère, Vaïagéou et le tua. Le Midrash demande pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, il se leva contre? Il raconte. Abel était plus fort que Caïn.